24 avril 2024. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
7h, 9h,
RTL Matin.
Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, les résultats des premières expertises après la blessure par balle de Kenji Girard.
La balle qui a blessé le chanteur a bien été tirée depuis sa caravane. La thèse de l'accident reste donc plausible. L'autre grand titre du jour, ce sont les obsèques de Philippe Kopmann dans le Nord. Près de 10 jours après sa mort, elles seront célébrées cet après-midi à Grande-Synthe.
Et ce matin, un jeune de 15 ans est toujours en garde à vue dans cette affaire. Deux autres, 14 et 15 ans, ont été écroués, mis en examen la semaine dernière. Comment enrayer cette violence? Faut-il ou non durcir la loi, généraliser par exemple les couvre-feux? Le débat monte. Je reçois ce matin la magistrate Béatrice Brugère. Rendez-vous à 7h40.
Et puis il se cache dans nos yaourts, nos biscottes ou encore nos pains de mie, les émulsifiants accusés de favoriser le diabète.
RTL Matin.
Kenji Girac a-t-il vraiment fait partir le coup du pistolet qui l'a blessé par erreur? Les résultats des premières expertises semblent en tout cas accréditer ce matin cette thèse d'un accident, Thomas Proutot.
Oui, les experts en balistique sont formels. D'après nos informations, la balle qui a traversé le corps de Kenji Girac a été tirée à l'intérieur d'une caravane où se trouvait le chanteur dans la nuit de dimanche à lundi. C'est l'impact du projectile sur une des parois qui a permis d'arriver à cette conclusion. Dans la caravane se trouvait également sa compagne, un fait là encore corroboré par les constatations des enquêteurs, mais elle affirme ne pas être impliquée dans le tir et rien à ce stade ne vient remettre en cause ses déclarations. La jeune femme n'a pas été placée en garde à vue. La version de l'accident, d'une erreur de manipulation donnée initialement par Kenji Girac sur son lit d'hôpital lundi, reste donc plausible, sans que soit écartée l'hypothèse d'une tentative de suicide ou de l'intervention d'un tiers. C'est désormais de l'audition formelle du chanteur, dès que son état le permettra, que les gendarmes attendent des réponses à leurs nombreuses questions, et notamment pourquoi le pistolet a d'abord été dissimulé par la famille de Kenji Girac avant d'être restitué à la justice.
Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL et le manager du chanteur, a donné de ses nouvelles hier. Kenji Girac va bien et est tiré d'affaire.
Ils sont sans doute présents ce matin à la table de votre petit déjeuner, parfois sans que vous le sachiez. Une étude menée notamment par l'INSERM alerte sur les émulsifiants.
Ces additifs alimentaires qui permettent d'améliorer la texture des produits et de prolonger leur durée de conservation. Et s'ils sont mis en cause, c'est parce qu'ils favoriseraient le diabète gatlandais.
Oui, cette étude a suivi l'état de santé de plus de 100 000 Français pendant 15 ans. Elle a déjà permis de démontrer que plus on consomme de ces additifs, plus on a de risques de développer un cancer ou une maladie cardiovasculaire. Aujourd'hui, cette liste s'allonge puisqu'ils augmenteraient aussi le risque de développer un diabète de type 2. Or, ces émulsifiants, ils sont partout, comme nous explique le docteur Mathilde Touvier qui a dirigé cette étude pour l'INSERM.
Les émulsifiants, ce sont un groupe de plusieurs dizaines d'additifs qui sont utilisés de manière très large dans l'industrie agroalimentaire pour améliorer notamment la texture des produits. Et donc, on en trouve dans tout un ensemble de produits, donc à la fois certains gâteaux, pâtisseries industrielles, mais on en trouve aussi dans certaines biscottes, certains pains de mie ou bien des yaourts aromatisés, par exemple.
En plus, pas facile de les repérer. Ils portent des noms barbares comme carrageenan, citrate de sodium. Parfois, dans la liste des ingrédients, ils apparaissent sous la forme de numéros comme E412. En fait, la seule manière de les éviter, c'est de limiter sa consommation de produits industriels très transformés.
Un gatlandais spécialiste santé de RTL.
À un mois et demi maintenant des élections européennes, le Rassemblement national est toujours largement en tête des intentions de vote.
31%, un point de plus sur une semaine pour la liste de Jordan Bardella, selon le dernier sondage Toluna Harris Interactive pour RTL. Derrière, on retrouve Renaissance avec 16%, puis la liste socialiste Place Publique de Raphaël Glucksmann et ses 13%. Et après le vote des retraités, notre baromètre se penche cette semaine sur le vote des électeurs de confession musulmane. C'est la France Insoumise qui est la plus plébiscitée à 38%. Le parti où, après Rima Hassan, c'est Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis, qui est convoquée par la police pour apologie du terrorisme. La formation de Jean-Luc Mélenchon dénonce donc un bâillonnage politique, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, la France Insoumise se pose en victime d'une répression politique orchestrée par le pouvoir. C'est sa demande répétée d'un cessez-le-feu à Gaza et sa condamnation de la politique israélienne qui lui vaut, estime-t-elle, ses convocations. Clémence Guettet, députée insoumise.
Ça s'inscrit pour nous dans une opération d'intimidation politique
et de censure politique. Parce que là, on parle de la présidente du premier groupe d'opposition de gauche pour un communiqué de presse qui est extrêmement clair dans la condamnation de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc c'est de la criminalisation des oppositions politiques.
Un communiqué qui avait pourtant fait polémique à l'époque. L'attaque du Hamas était présentée comme une offensive armée de forces palestiniennes et n'était pas qualifiée de terroriste. Mais les Insoumis voient un lien direct entre l'interdiction des conférences de Jean-Luc Mélenchon à Lille la semaine dernière, les convocations de Mathilde Panot et de Rima Hassan auparavant. Pour une fois, ils peuvent compter sur le soutien du reste de la gauche. Côté macroniste, en revanche, on restait très discret hier face à ces accusations.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Et l'apologie du terrorisme est passible de peine allant jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. François Fillon portera-t-il ce soir un bracelet électronique ? La Cour de cassation rend sa décision à 14h après le pourvoi formé par l'ex-premier ministre dans l'affaire d'emploi fictif de son épouse. La Cour d'appel l'avait condamné à 4 ans de prison, dont un ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Peine pour l'instant suspendue, mais qui, si elle est confirmée cet après-midi, deviendra définitive. Sinon, un autre procès aura lieu.
RTL 7h05, dans le Nord, le troisième suspect dans l'affaire de la mort de Philippe Kopmann pourrait être présenté à un juge aujourd'hui.
RTL vous l'a révélé dès hier, l'audition de ce mineur de 15 ans a été prolongée et est toujours en cours ce matin. Il continue de nier sa complicité dans la mort du garçon de 22 ans dont les obsèques auront lieu à 14h30 à Grande-Synthe. Beaucoup comptent s'y rendre pour un dernier hommage et pour soutenir ses proches. Écoutez son frère, Kelvin.
Philippe, c'était une personne en or, c'est une personne toute gentille, une personne qui ne serait même pas défendue, qui avait un contact sociable incroyable. C'est pour ça qu'il était animateur, c'est pour ça que tout le monde l'aimait bien, c'est pour ça qu'il partageait son sourire avec tout le monde. Il faut essayer de garder ça, même si au début ce sera compliqué. On pense tous à Philippe avec un sourire, même si c'est très 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 dur en ce moment.
Une personne en or, les mots du frère de Philippe Kopmann au micro de Frank Hanson. Le Sénat américain valide à son tour et sans surprise l'enveloppe pour l'Ukraine d'un montant équivalent à près de 57 milliards d'euros. Le président Joe Biden veut y envoyer des armes dès cette semaine. Le Sénat a aussi voté une aide militaire pour Israël.
Dans un tout petit instant sur RTL, pas où ou peu d'avions dans le ciel demain.
Et puis le sport à tous les étages ce soir. Ça se passe au stade de Louis II à Monaco. A tout de suite, il est 7h07.
Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
RTL Matin.
Il est 7h07, la suite du journal d'Hortense Crépin sur RTL. Le principal syndicat de l'aviation parle d'annulation considérable. La grève des contrôleurs aériens de demain se précise.
75% de vols supprimés à Orly, 65 à Roissy et Marseille, 60 à Toulouse et Nice et 50 pour les autres aéroports. Et la même tendance pourrait bien se profiler pour le pont de l'Ascension. Un préavis de grève est déposé pour les 9, 10 et 11 mai. Le syndicat conteste la refonte du contrôle aérien et réclame des compensations et des hausses de salaire.
Le foot Paris champion de France, l'affaire pourrait être pliée dès ce soir.
À 4 journées de la fin du championnat de Ligue 1, le PSG pourrait être sacré pour la 12e fois de son histoire. Paris se déplace à Lorient à 19h, match en retard de la 29e journée. Trophée, il y aura 6 victoires et si Monaco, actuel dauphin de Paris, ne s'impose pas face à Lille à 21h dans son stade Louis II, où il pourrait bien y avoir, non pas un, mais bien deux succès monégasques ce soir, puisqu'avant le foot, l'enceinte accueillera du basket à 19h. La Roca Team reçoit Fenerbahçe pour le match 1 des quarts de finale du championnat d'Europe. Le sport se jouera donc à tous les niveaux du stade, au propre comme au figuré, Michael Lefebvre.
Oui, mais il a quand même fallu décaler de 2 heures la rencontre de foot, initialement prévue à la même heure que le basket, dans un télescopage de calendrier pas évident à gérer pour la principauté, car la particularité du stade Louis II, c'est que sous la pelouse se trouve une piscine, mais aussi donc la salle Gaston Médecin, qui accueille la Roca Team, le surnom de l'équipe de basket de l'AS Monaco. Le défenseur de l'ASM Foot, Thilo Kehrer, évoque les liens qui existent entre les joueurs des deux équipes.
Quand il y a la possibilité d'aller voir un match, on y va. Des fois, on les croise aussi dans la vie de tous les jours, les basketteurs. Et du coup, il y a une connexion. Et bien sûr, les grands matchs vont arriver aussi pour eux. Là, du coup, on espère que les deux vont avancer dans la bonne direction.
L'ASM Basket et l'ASM Foot joueront en effet une partie de leur avenir européen ce soir pour une place sur le podium de la Ligue 1 et par conséquent en Ligue des Champions la saison prochaine pour les footeux. Et pour faire un premier pas vers la finale à 4 de l'Euroleague pour les coéquipiers du prodigieux Mike James.
Michael Lefebvre pour RTL à 21h, aussi à une vingtaine de kilomètres de Monaco. Nice reçoit Marseille pour le derby de la Méditerranée, toujours pour un match en retard de la 29e journée de Ligue 1 de foot. Et puis en Ligue 2 cette fois, après deux défaites à l'extérieur, le leader Auxerre rebondit en dominant Laval 4-0 dans le multiplex de la 34e journée.
On termine avec les courses qui ont lieu à Cordemais en Loire-Atlantique.
Et le départ c'est à 13h55. Les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 2, le 5, le 13, le 7, l'As, le 10, l'outsider de RTL, l'As.
Hortense Crépin nous proposait le journal de 7h, il est 7h10.
Et dans un instant sur RTL, la folie TikTok. Pourquoi nos ados y sont-ils accros? RTL a mené l'enquête.
Et puis Alba Ventura, vous nous parlez ce matin de l'étrange silence de Gérald Darmanin.
Ben oui, pourquoi le ministre de l'Intérieur reste-t-il aussi éloigné des médias? Pourquoi cette discrétion?
Bonne question.
À tout de suite.
RTL. Si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde, DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback Itens 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, c'est cuit.
Pour Lidl ?
Et non, pour nous et pour les crevettes. En ce moment, la barquette de 100 grammes de crevettes ASC décortiquées au citron et à la coriandre est à 2,30€ au lieu de 2,99€, moins 23%.
2,30€ les crevettes.
Eh oui, on est mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 23€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mercredi 24 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
C'était bien ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Bah, Fiat étant le bonus écologique de 7 000€ à tous.
3 000€ de remise en plus?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79€ par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 2 650€, bonus éco 4 000€, remise éco Fiat 3 000€ et prime à la conversion de 1 500€ déduits si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur Fiat.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Fiat. Savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère. Vous souhaitez une voiture au prix de l'occasion mais avec une fiabilité irréprochable? Rendez-vous dans un instant.
RTL événement.
Et l'événement ce matin sur RTL, c'est donc la folie TikTok. Écoutez les chiffres, ils sont littéralement dingues. Près de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, 15 millions en France, la moitié à moins de 24 ans. Et en plein débat autour de l'addiction aux écrans, l'Europe a décidé de s'attaquer au réseau social chinois. La Commission européenne menace en effet de suspendre la nouvelle application Light TikTok. Application dont le principe est très simple, plus vous y passez de temps, plus vous gagnez des bons d'achat. Ah oui. Bonjour Manon Meyer.
Bonjour.
Et ce qui est pointé du doigt, c'est bien sûr le risque d'addiction, alors que nos ados passent déjà beaucoup, beaucoup de temps sur TikTok, hein, plusieurs heures par jour parfois. Vous l'avez d'ailleurs constaté dans les rues de Marseille.
Et oui, c'est ça. Ici, en attendant son bus, Amine, 17 ans, sort son téléphone, ouvre TikTok et commence à faire défiler les vidéos.
Il y a du foot, il y a de la musique un peu... Il y a un peu de filles aussi.
Tu passes combien de temps par jour?
Ça fait quand même bien 3 heures par jour, hein. Donc ça utilise beaucoup de mon temps libre. En fait, on dit ouais, on reste une heure même pas. Et en final, on scroll et toute la journée. Hein. C'est vraiment une addiction maintenant. Je sais que c'est mauvais, mais c'est pas grave, on passe le temps avec ça.
Et alors, c'est devenu un réflexe, hein. TikTok l'accompagne à chaque temps mort.
À l'arrêt de bus, quand je m'ennuie, je suis sur TikTok. Dans le bus, quand je m'ennuie, sur TikTok. Même aux toilettes, tout le temps, vraiment. À l'école, quand je m'ennuie, quand la prof, elle fait son cours et tout. Sinon, le soir, dans mon lit, tranquille. Avant, je dormais très tôt. 22h max, je dormais. Et là, maintenant, vu qu'il y a TikTok, etc., les réseaux sociaux, je dors vraiment très tard, hein. 2h du matin, 3h du matin, ça nuit à mon sommeil.
À quelques rues de là, Ava, 18 ans, trouve aussi qu'elle passe trop de temps sur TikTok. Et ça, depuis qu'elle a 12 ans. Sur son appli, beaucoup de vidéos de jeunes filles qui donnent des conseils beauté. Et ça l'a beaucoup marqué.
Vu que j'ai TikTok depuis longtemps, je vois de plus en plus de belles filles passer qui sont vraiment dans les standards de beauté actuels. Moi, je sais que ça m'a impressionné à quel point j'ai changé mentalement par rapport à ça. Physiquement, je me trouve beaucoup moins belle qu'avant. Avant, je m'en foutais vraiment. J'étais très nature-peinture, voilà. J'essaye de leur ressembler. Sinon, on se sent dévalorisé par rapport à elles.
Sabrina, elle, se souvient que TikTok lui a posé quelques problèmes l'an dernier. j'avais mes partiels. Et en fait, à ce moment-là, j'étais grave sur TikTok. Et d'habitude, j'arrive à réviser pendant 2 heures d'affilée, 3 heures d'affilée. Là, je n'arrivais pas à réviser plus de 30 minutes. Et alors, aucun des ados rencontrés ici à Marseille ne connaissent TikTok Lite, cette version qui rémunère le temps passé sur l'appli. Il faut dire que ça vient de sortir. La plupart d'entre eux trouvent que c'est une très mauvaise idée, que ça va les rendre encore plus accros.
Une très mauvaise idée, c'est aussi ce que pensent les spécialistes, Manon.
Oui, absolument. Sylvie Thirion travaille à la faculté pour le laboratoire Neuromarseille. En fait, ce qu'elle dit, c'est que TikTok active le circuit de la récompense dans le cerveau. C'est pour ça que ça nous rend complètement accro. Alors, s'il y a de l'argent en jeu, eh bien évidemment, c'est pire. En plus, sur les ados, ça pourrait être critique puisqu'on est à un âge où le cerveau est encore en train de se former.
Tout ça va venir faire des réseaux neuronaux à un moment où le cerveau est encore en pleine maturation. Ça va pouvoir créer des fragilités qui vont pouvoir ressortir à l'âge adulte, par exemple dans la recherche de plaisir intense et rapide, voire dans certains cas le développement d'addictions qui sont aussi des pathologies qui reposent sur le même type d'activité cérébrale.
Alors aujourd'hui, la chercheuse le précise, il y a encore peu d'études scientifiques sur TikTok puisque l'appli est récente, mais sur le terrain, les psychologues le constatent, les ados dorment moins bien et ils ont plus de mal à se concentrer quand ils passent trop de temps sur l'application. Un rapport d'Amnesty International montre aussi que le réseau social peut amplifier les contenus sur la dépression et le suicide, et donc pousser les ados vers des comportements dangereux.
Et face à cela, Manon, on imagine bien sûr que les parents essayent de limiter le temps de TikTok de leurs ados. Et c'est, il faut bien le reconnaître, plus facile à dire qu'à faire. Hein.
Oui, exactement. Leïla, par exemple, elle a 2 ados à la maison, elle travaille beaucoup, alors c'est difficile de contrôler quoi que ce soit.
Comme je travaille, je suis tout le temps dehors et tout ça, il n'y a que le soir à la maison, ben, j'ai pas trop le temps pour vraiment les contrôler comme ils font. Mais bon, je fais ce que je peux.
Voilà, et c'est d'autant plus compliqué à maîtriser que l'application comprend très vite les goûts de chaque ado et elle fabrique ensuite un mélange de vidéos très addictif.
Effectivement, et alors pour être très honnête, ce que je disais hors antenne à Yves, c'est que moi j'avais pour un invité téléchargé TikTok, c'est très 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 vite addictif. On s'y retrouve, on s'y retrouve des minutes et des minutes, je le supprimais du coup.
Bon, c'est très bien, c'est une excellente mesure que vous avez prise. Il est 7h17.
RTL Matin.
Bonjour Alba Ventura.
Bonjour à tous.
Gérald Darmanin sera en meeting pour les européennes demain dans le département de l'Aveyron. En début de semaine, il était au Maroc pour discuter de coopération antiterroriste avant les Jeux Olympiques. Alba, le ministre de l'Intérieur s'active, mais on ne l'entend plus. À quoi joue Gérald Darmanin?
Il joue à s'économiser, Yves. Alors c'est vrai que nous n'étions pas habitués à autant de sobriété médiatique de la part du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a toujours fait feu de tout bois. Il était un peu comme un Sarkozy bis, toujours en mouvement, tantôt fanfaron, tantôt insolent, il ne refusait jamais une interview. Et là, ça fait un moment qu'il a déserté la presse. Il n'a jamais hésité à occuper le devant de la scène. Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, en sait quelque chose. Désormais, il a choisi d'être plus discret, de se préserver.
Et donc, si je vous suis bien, c'est une stratégie.
Oui, mais pas seulement. Parce que Gérald Darmanin, c'est un combattant, c'est un conquérant. Ça fait 2 fois qu'il voit Matignon lui passer sous le nez. En juillet dernier, lorsqu'Emmanuel Macron avait finalement maintenu Elisabeth Borne, il a pris un gros coup sur la tête. Et puis en janvier, lorsque le président a nommé Gabriel Attal, alors là, ça a été le coup de grâce. Donc, non seulement il n'était pas au casting, mais comme beaucoup d'autres ministres, il prenait un gros coup de vieux sur la tête, lui qui n'a que 41 ans. Donc, en 6 mois, Gérald Darmanin a pris 2 portes, et c'est la raison pour laquelle il a tiré le rideau. Et souvenez-vous d'ailleurs, tout juste après la nomination de Gabriel Attal comme chef du gouvernement, Gérald Darmanin a évoqué pour la première fois son départ du gouvernement. Il avait dit au Figaro qu'après les JO, un cycle au ministère de l'Intérieur aura été atteint.
Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il est déjà parti dans sa tête?
Bon, ça on verra, Yves. Parce que hors du gouvernement, vous savez, ce n'est plus la même histoire. Vous n'avez plus la même exposition. Gérald Darmanin raconte parfois qu'il retournera à Tourcoing ou qu'il ouvrira une baraque à frites sous le soleil. Bon, on a un peu du mal à croire à cette légende. Non, là, Gérald Darmanin n'a qu'un objectif, c'est réussir les Jeux Olympiques. Ça, c'est le sujet qu'il préoccupe, le sujet sur lequel il est concentré, parce qu'il sait que la sécurité des Jeux repose sur ses épaules. Gérald Darmanin a misé sur les JO, pas sur le gouvernement, dont il sait qu'il n'y a que des coups à prendre. Donc, des Jeux Olympiques dépendra la suite pour le ministre. Et en attendant, ce qu'il veut,
c'est préserver sa popularité. Parce que si Gérald Darmanin reste éloigné des médias, il ne lui a pas échappé qu'il reste le ministre le plus apprécié. Ça, c'était le tout dernier baromètre Ipsos pour La Tribune dimanche. Et cette éclaircie-là, il ne compte pas la laisser passer.
Bon, à cause de vous, maintenant, j'ai l'image, je l'imagine dans sa baraque à frites. Une petite frite, monsieur Darmanin, s'il vous plaît. Il est 7h19.
Et dans un instant, on va remonter l'histoire. Laurent Deutsch, le génocide arménien, c'est un sujet dont on vous parle régulièrement. Et bien, figurez-vous que tout a commencé un 24 avril. À tout de suite, il est 7h19.
RTL Matin. Jusqu'à 9h.
Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé. Je savais pas quoi faire, ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence décès. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout.
En cas de décès, appelez gratuitement le 32. Une équipe urgence décès PFG vous répond 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour une prise en charge partout en France. Urgence décès 32, un service PFG.
Hey! Les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Corentin.
Moi ?
Oui, vous. Car du 23 au 29 avril, pendant l'anniv Netto... Le paquet 18 ou absorbant double épaisseur Netto est à seulement 2,53€ au lieu de 3,84€. De quoi essuyer toutes les bêtises de vos petits monstres.
2,53€ le paquet 18 ou absorbant double épaisseur Netto. Les enfants, on les sauvés.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Pack de 6 rouleaux, 34% de remise immédiate, plus d'infos sur netto.fr.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados. En collaboration avec MSD.
RTL. Entrée dans l'histoire.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour Yves, bonjour Amandine.
Alors aujourd'hui, triste anniversaire, vous voulez évoquer le génocide arménien qui a commencé un 24 avril, c'était en 1915.
Eh oui, ce jour-là, une vaste opération de police a procédé à une rafle d'intellectuels arméniens à Constantinople, l'actuel Istanbul, oui. Alors capitale de l'Empire turc. 2345 notables, des poètes, écrivains, journalistes, médecins, professeurs sont arrêtés, certains sont assassinés immédiatement, d'autres transportés à l'écart pour être tués en toute discrétion.
Et ce n'est que le début de l'horreur.
Et oui, hélas, un avis de déportation est bientôt publié dans toutes les provinces de l'Empire. Femmes, enfants, vieillards doivent être déportés dans le désert de Syrie. Ils abandonnent leur maison, leur village, ils partent à pied sous bonne garde de gendarmes à cheval. Les hommes valides, eux, sont exécutés sur place. Le ministre turc de l'Intérieur de l'époque écrit sans trembler « Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie ». Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l'âge, ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Ce sont ces mots.
Connaît-on vraiment le nombre de victimes ?
Alors, on estime qu'1,247,000 personnes ont disparu dans la tourmente, c'est-à-dire 77% de la population arménienne en Turquie.
77%, c'est énorme. Pourquoi cette obsession génocidaire ?
Eh bien, dans un empire ottoman qui vacillait, le gouvernement très nationaliste des jeunes turcs, c'était le nom du parti au pouvoir, voulait restaurer une Turquie homogène, aussi bien ethniquement que religieusement. Les Arméniens chrétiens étaient évidemment exclus de ce projet, il fallait donc les éliminer.
Faut rappeler que le gouvernement turc conteste encore aujourd'hui la réalité de ce génocide.
Et oui, et déjà à l'époque, pendant le déroulement des faits, le gouvernement a détruit toutes les preuves des massacres. Les photographies étaient interdites, les médias ne pouvaient pas faire la moindre allusion aux tueries, les fonctionnaires trop sensibles étaient mutés ou fusillés. Et puis, après la Première Guerre mondiale, alors que l'Empire ottoman s'était effondré et que le parti des jeunes turcs avait été emporté par le vent de l'histoire, il fallait encore nier le génocide, car le régime de Mustafa Kemal, alias Atatürk, le modernisateur de la Turquie, reposait en grande partie sur les anciens fonctionnaires, ceux-là même qui avaient servi le régime criminel.
Laurent rappelle aussi qu'une partie des Arméniens rescapés sont venus se réfugier en France.
Et oui, environ 58 000 réfugiés ont débarqué à Marseille pour commencer une nouvelle vie. Alors comment ne pas évoquer Missak Manouchian, arrivé en France à l'âge de 13 ans, héros de la résistance, fusillé par les Allemands et porté au Panthéon en février dernier. Comment ne pas évoquer aussi Charles Aznavour, bien sûr, mais aussi le cinéaste Henri Verneuil ou l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. Et jusqu'au petit dernier de la lignée, l'humoriste Mathieu Madénian, qui revendique fièrement ses racines arméniennes et qui dénonce aujourd'hui dans l'indifférence générale le nouveau drame arménien de notre époque, la conquête de l'enclave arménienne du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan en septembre 2023. Dans ce Caucase, perdu entre Europe et Asie, 120 000 Arméniens ont été chassés de chez eux, sans réaction internationale.
Merci beaucoup Laurent. Demain, de quoi nous parlez-vous ?
Ah bah demain, on va parler d'une autre révolution qui a entraîné la fin de la dictature au Portugal dans les années 70, et tout ça, par contre, sans effusion de sang cette fois.
À demain.
Et il est 7h24 sur RTL. Dans 5 minutes, le journal est à la une, les obsèques de Philippe Kopmann, ce jeune homme de 22 ans, lynché à Grande-Synthe. Un troisième suspect, toujours en garde à vue ce matin, inscrit frappe une nouvelle fois. C'est son très jeune âge, 15 ans seulement. Alors que faire ? Faut-il durcir la loi ou non ? On a choisi ce matin de donner la parole à une magistrate, Béatrice Brugère, la secrétaire nationale du syndicat Unité Magistrat EFO. Elle sera mon invitée dans un petit quart d'heure. Côté météo, Louis Baudin, c'est encore bien bien froid. J'ai même vu de la neige à basse altitude.
Oui, oui, c'est ça, des 300 mètres dans le nord-est. Et puis, alors, non seulement il fait froid, mais maintenant, on va retrouver des nuages partout. Ah, c'est agréable. Oui.
Elle vous accueille tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, qu'on retrouve en pleine discussion autour des tatouages de Stomy Boxy.
Vous êtes tatoué, monsieur Boxy.
Oui, mais pas ni sur le dos, ni sur.
Où
comme
ça
Isabelle Mergaux, j'ai envie de les voir, mes tatouages.
Eh ben voilà.
T'es tatoué où, toi?
Là,
on en voit, là, regardez.
Ah, oui, oui. Ah,
bah, tout le monde est tatoué. Ah,
oui. Moi, j'ai mis les grosses têtes sur mon sexe. Non, mais... pour le moment, moi,
j'ai. Il n'y a pas la place, ouais.
Pour l'instant, on voit les LGT.
Et encore.
Et vous, monsieur Boxy, monsieur Rami, pardon.
Si je suis tatoué,
oui.
Vous avez déjà vu une Ferrari avec des autocollants?
Bravo!
Selon les derniers chiffres, je regardais 13 millions de Français tatoués quand même.
C'est ah ouais. Terrifiant.
Ça fait beaucoup. Les grosses têtes, elles, on les retrouve dès 15h30 et jusqu'à 18h tous les jours autour de Laurent Ruquier. Il est 7h26.
RTL. Bonjour. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
La Côte d'Or, au cœur de la Bourgogne. C'est la première destination nature et patrimoine entre Paris, Lyon et Strasbourg. Des sites inscrits à l'UNESCO, des plus beaux villages de France, le parc national de forêt, le parc du Morvan, des itinéraires gourmands, dont la célèbre route des Grands Crus. Tout commence sur lacotedorjadore.com.
RTL Matin.
Pour profiter de l'été, Batiman, spécialiste de la protection solaire, installe chez vous store, pergola, brise-soleil, sur mesure et motorisé.
Oui, Baudin, le froid, ça continue.
Oui, ça continue.
Du moment que ça ne touche pas nos vignes.
On n'en est pas très loin. Hein. On a moins 2 au Puy, à Mende, moins 1 à Aurillac, à Guéret, 0 à Albi. On a des gelées autour de l'Aveyron, du Cantal, de la Haute-Loire, de la Côte d'Or. Hein, vous voyez, donc quelques vignes peuvent être touchées quand même, hein, autour du 0 degré. Et tout cela avec un ciel qui, en plus, est devenu beaucoup plus nuageux. Hein. Réveil nuageux dans la plupart des régions et ça restera comme ça toute la journée, sauf sur le littoral méditerranéen où là, nous avons du Mistral et de la Tramontane. Déjà 60 km/h à Avignon, 70 à Martigues et ça va être comme ça toute la journée, 70-80 km/h dans la basse vallée du Rhône et autour du golfe du Lion. Mais là au moins, le ciel sera dégagé parce que partout ailleurs, ça va rester très nuageux avec peu ou pas d'éclaircies et donc quelques averses à un moment ou à un autre. Alors un peu plus fréquentes des Pyrénées aux frontières de l'Est et puis sous forme de neige sur tous les reliefs, encore une fois, à partir de 700-800 mètres sur les Vosges, le Jura, les Alpes ou encore entre le Massif central et les Pyrénées. Il y en aura pour tous tous les massifs, parce que cet après-midi, les températures seront encore fraîches pour la période. 9 à 12 degrés dans la moitié nord, c'est comme hier. 13 à 17 degrés dans le sud et 18 degrés quand même à Perpignan, pas plus.
Ce temps est installé.
Oui, ce temps est installé malheureusement. Alors d'abord avec du froid jusqu'à vendredi, et puis ensuite il n'y aura plus le froid, mais il y aura encore les nuages et la pluie, notamment pour ce week-end qui s'annonce particulièrement perturbé, avec donc des averses parfois accompagnées d'orages. Alors les températures vont remonter, hein, 17, oui. 18 degrés dans la moitié nord, plus de 20 degrés dans le sud, mais avec toujours beaucoup d'humidité.
Et le printemps, c'est pour quand?
Je sais pas, faut qu'on regarde le calendrier, c'est un peu plus tard je pense.
Non mais j'ai bien compris qu'on n'a pas de, vous n'avez pas encore de date pour nous dire ça s'arrête quand?
Non, jusqu'en D'accord. début de semaine prochaine ça continue, puis après vous savez, je ne sais pas, donc je vais m'abstenir.
Plus de détails, je le rappelle bien entendu à 8h30 pour votre météo à 7 jours. Là je vous dis bon courage, merci à vous tous qui nous écoutez, RTL, il est 7h30.
Amandine Bégaud.
RTL Matin jusqu'à 9h.
Et le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Le crédit à la consommation est-il devenu le seul recours de certains Français pour ajuster leur budget en fonction des urgences? Vous êtes 40% à avoir un ou plusieurs petits crédits en cours d'après une étude du CSA Research pour Cofidis. Anne-Laure Marchal est l'auteur de l'enquête.
C'est 61% des détenteurs qui nous disent qu'en effet, le contexte économique, l'inflation, la hausse des prix, etc., la hausse des taux d'intérêt, a joué un rôle dans leur décision de souscrire un crédit à la consommation.
Bonjour Nicolas Burnand.
Bonjour.
Cette étude, elle est très détaillée. D'abord, pourquoi on souscrit en général un crédit à la consommation? Pour quels achats?
D'abord, pour acheter un véhicule, une voiture, un vélo, un scooter. C'est le premier motif d'un crédit à la consommation. Suivent les dépenses pour des travaux de rénovation de son logement. Enfin, l'électroménager, la machine à laver, le lave-vaisselle, l'aspirateur qui vous lâche. Le montant moyen d'emprunt est de 15 500 euros. Mais également, et ça c'est nouveau, pour faire face aux petites dépenses du quotidien.
Alors tout le monde n'est pas égal. Dans quelle région on y a plus facilement recours?
Eh bien, trois quarts des détenteurs de crédit vivent en région. Les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et la Bourgogne-Franche-Comté en tête. C'est là, selon cette étude, que le contexte économique et l'inflation jouent le plus sur la souscription. La très grande majorité des Français affirment rembourser leur mensualité sans problème, mais attention au piège du surendettement. La Banque de France a vu le nombre de dossiers augmenter de 8% l'an dernier.
Merci Nicolas Burnand pour ces précisions.
Les obsèques de Philippe Kopmann auront lieu à 14h30 à Grande-Synthe dans le département du Nord.
Ce jeune de 22 ans passé à tabac en début de semaine dernière avait succombé à ses blessures, tandis que l'enquête avance. La garde à vue du troisième suspect a été prolongée. Il s'agit de cet adolescent de 15 ans, lui aussi roué de coups vendredi, Plana Radenovic.
En effet, la garde à vue du jeune suspect a été prolongé hier dans les locaux de la police judiciaire de Lille. Cet adolescent de 15 ans est soupçonné par les enquêteurs d'être le troisième co-auteur du tabassage mortel de Philippe Kopmann. Il avait ensuite été victime de représailles, selon les premiers éléments, roué de coups vendredi soir par des hommes en cagoulé. Les policiers l'ont auditionné d'abord lundi à sa sortie de l'hôpital avant de le placer en garde à vue. De sources proches de l'enquête, on sait qu'hier soir, l'adolescent n'avait toujours pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Les policiers ont jusqu'à la mi-journée pour l'interroger. Il pourrait ensuite être déféré avant une éventuelle incarcération, comme les deux mineurs de 14 et 15 ans déjà mis en examen dans cette affaire.
Précision signée Plana Radenovic. Kenji Girac, tiré d'affaire selon son manager, le chanteur de 27 ans blessé au thorax par une balle sur une aire d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse. D'après les premières constatations, la balle a bien été tirée dans sa caravane où il se trouvait avec son épouse. La piste de l'accident n'est donc pas écartée.
Il est 7h32, l'actualité internationale. Israël semble résolu à mener une offensive sur Rafah, à l'extrême sud de la bande de Gaza.
Selon des responsables égyptiens cités par le Wall Street Journal, Tel Aviv se prépare à déplacer 1,5 million de civils vers la ville de Khan Younes, à proximité. 200 jours depuis le début de cette guerre entre Israël et le Hamas et un conflit en Ukraine qui s'étale dans le temps. Près de 2 ans et demi, Amnesty International dresse ce matin un rapport alarmant sur l'état du monde et des droits humains. Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty France, redoute l'effondrement de l'ordre mondial.
Vous avez la Russie qui a envahi l'Ukraine et vous avez les États-Unis qui ne font rien pour que cessent les atrocités commises à Gaza. Ceux qui sont chargés de la paix dans le monde ne font pas le job et au contraire se servent de leur droit de veto finalement pour couvrir les exactions dans leur zone d'influence, ce qui est intolérable.
Propos recueillis par Émilie Beaujard. Après la militante pro-palestinienne Rima Hassan, une autre insoumise, Mathilde Panot, chef de file des députés, convoquée par la police pour apologie du terrorisme dans le viseur. Un communiqué du parti publié le 7 octobre dernier après l'attaque du Hamas en Israël qui parlait d'une offensive israélienne sans mentionner le caractère terroriste. À deux mois des élections européennes, la percée du Rassemblement national se confirme. 31% des intentions de vote selon notre baromètre hebdomadaire Toluna Harris Interactive pour RTL, plus un point pour le RN. La liste Renaissance se stabilise à 16%. Celle de PS Place Publique menée par Raphaël Glucksmann est en léger recul, moins un point.
Une voix inimitable, un charisme indéniable, mais un destin tragique. Back to Black, le biopic sur la vie d'Amy Winehouse, sort en salle.
14 ans après la mort de la chanteuse, un film retrace son ascension et sa chute éclair. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Vous avez vu ce film en avant-première pour RTL et vous êtes partagé ce matin.
Bon, on va faire la colonne des plus d'abord. Allez. Si vous aimez la musique, la voix d'Amy Winehouse, l'hommage est vibrant, on réentend tous ses classiques. Et c'est surtout grâce à celle qui incarne la chanteuse physiquement, mais aussi vocalement, la jeune comédienne anglaise Marisa Abella.
Pour ce film, j'ai ressenti comme une nécessité d'être capable de raconter son histoire à travers sa musique. Alors, si nous utilisions ses chansons comme une sorte de guide, il fallait qu'en ouvrant ma bouche pour chanter, je sois capable de me connecter émotionnellement à ce qu'elle disait.
Alors, il y a aussi la colonne des moins.
Oui.
Le côté angélique, quasiment Disney par moments, très lisse de Back to Black, bâti comme une histoire d'amour tragique. Le film, faut dire, est piloté à distance par les proches de la star. Son père, notamment, il y a le beau rôle, alors qu'on sait, on l'a vu dans un documentaire, qu'il a même profité des excès de sa fille en vendant à une chaîne de télé les images d'une de ses cures de désintoxication. Bref, j'aurais aimé que ça soit plus rugueux, plus conforme, en fait, au destin tragique d'Amy Winehouse.
Merci Stéphane Boutsock, notre monsieur cinéma ici à RTL. Du football ce soir, oui. Trois matchs en retard de la 29e journée de Ligue 1. Lorient affronte le PSG à 19h, puis Monaco-Lille et Marseille-Nice à 21h. Les Parisiens qui pourraient rafler le titre dès ce soir.
Et je l'espère bien, hein. En tant que supporter du Paris Saint-Germain. Aude Vernuccio nous proposait le journal de 7h30. On vous retrouve à 8h30.
À tout à l'heure.
On compte sur vous. François Langlais, vous vous envolez à la rencontre de ceux que vous surnommez les artistes de la grève. Ils ne sont pas intermittents, ceux-là.
Non, les contrôleurs aériens dont le travail est intermittent, on va s'en rendre compte. Demain.
A tout de suite pour l'angle écho sur RTL.
RTL Matin.
Avec RTL, profitez sans attendre des Crazy Mercredis chez IKEA. Tous les mercredis, dans les restaurants IKEA, les plats chauds sont à moitié prix avec la carte IKEA Family. De quoi se régaler sans se ruiner jusqu'au 28 août 2024.
IKEA. Crazy Mercredi, mercredi fou.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
RTL. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et pour notre anniversaire, du 2 au 29 avril, on va vous gâter.
Ah oui? Pourquoi? C'est aussi mon anniversaire?
Et oui! Chaque jour, foncez à notre borne de jeux en magasin pour tenter de gagner des cartes cadeaux jusqu'à 50 euros. Et en plus, avec ma carte Netto, tentez de gagner un séjour en famille.
Ne m'en dites pas plus, je fonce chez Netto.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto! Jeu avec obligation d'achat dès 25 euros. Règlement sur netto.fr.
Quand vous avez un brique-glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Charolaise.
Partenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui.
RTL Matin.
Il est 7h38, l'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Une grève massive des contrôleurs aériens se profile pour demain.
Oui, le trafic pourrait être amputé de 75% à Orly et même de 100% dans certains aéroports en région. Donc, même aux normes des contrôleurs aériens français, qui sont, on l'a dit, les artistes de la grève, on est à un niveau inhabituellement élevé et une suite est possible pour le pont de l'Ascension.
Bon, alors, à quoi est dû officiellement ce mouvement social ?
Un projet de réorganisation du ciel européen. On le sait, le trafic est en pleine expansion et curieusement, le contrôle des trajectoires des avions, essentiel pour la sécurité, oui, est resté largement national. Chaque pays dispose de son organisation et de son administration. Conséquence, les aéronefs ne prennent pas les routes les plus directes.
Non.
Et oui, ils sont obligés de borner, en quelque sorte, à certains points des territoires qu'ils survolent. Bon, ben, ça impose bien souvent de rallonger les trajets avec une surconsommation de kérosène et de carbone d'au moins 10%. Par ailleurs, ça limite évidemment la croissance du trafic, surtout dans les pays comme la France, qui, étant au centre géographique du continent, sont les plus survolés.
Bon, alors, soyons précis, que prévoit cette réforme ?
Rationaliser pour s'intégrer dans une organisation continentale en supprimant la moitié des tours de contrôle chez nous et en améliorant la productivité des agents, notamment en contrôlant les contrôleurs, dont le temps de travail est quelque peu intermittent. Ça fait 20 ans que la sous-productivité de cette administration est régulièrement pointée par une rafale de rapports. La Cour des comptes, le Bureau d'études et d'analyse de la sécurité civile. La France est responsable de plus de la moitié des retards d'avions en Europe.
Non.
La moitié. Et ça met en fureur toutes les compagnies. Et c'est indépendamment même des grèves dont elle détient le record.
Pardonnez-moi, mais comment s'explique cette invraisemblable sous-productivité ?
Des investissements insuffisants, le matériel est obsolète, et puis un personnel lui-même insuffisant quant à son nombre et quant à sa prestation. Selon certains rapports, le temps de travail serait de 100 jours par an. Une facilité permet par exemple aux agents de rentrer chez eux, sur décision du chef d'équipe, tout en étant payés.
Bah oui.
Et alors l'un des changements envisagés justement, c'est d'introduire des éléments de mesure beaucoup plus sérieux de la présence. Et puis, j'allais oublier, ils profitent d'une retraite largement anticipée puisqu'ils sont fonctionnaires de catégorie active, comme les surveillants de prison ou les policiers sur le terrain. Ça, c'est justifié, mais eux, ils ont même un régime dit superactif qui leur permet de partir à 52 ans et 3 mois. Ça sera 54 ans en 2030. C'est quand même 10 ans avant les autres.
Alors, dites-nous tout, parce que c'est quand même la question qui nous intéresse. Ça gagne combien, contrôleur aérien ?
Entre 4 000 et 8 000 euros par mois. Ça, oui, dépend de l'ancienneté, les primes qui constituent une bonne partie du traitement. Supplément curieusement attribué, d'ailleurs. Le Parisien avait révélé qu'ils avaient touché des primes de productivité, même quand le trafic s'était effondré au moment du confinement.
Et ils sont contre la réforme, donc ?
Non, ils conviennent qu'elle est nécessaire, mais bon, comme tous ceux qui sont en position de faire un chantage, ils veulent monnayer avec les primes de l'avancement, des augmentations annuelles qui seraient de 5% par an, avec deux arguments. Un, leur salaire de base est inférieur à certains de leurs homologues européens. Deux, c'est pas l'État qui paye, disent-ils, mais ce sont les compagnies aériennes, avec les redevances qu'elles versent à la direction de l'aviation civile. Bon, ils oublient de préciser que derrière la compagnie, il y a quelqu'un qui paye, c'est le voyageur avec son billet.
Merci beaucoup François Langlais, vos chroniques sont à retrouver sur RTL.fr et l'application RTL.
Et il est 7h41, dans un tout petit instant sur RTL, une magistrate. Bonjour Béatrice Brugère et bienvenue sur RTL. C'est aujourd'hui qu'auront lieu les obsèques du jeune qui a été lynché la semaine dernière à Grande-Synthe. Trois suspects ont été interpellés dans cette affaire, ils ont entre 14 et 15 ans. Alors est-ce un fait divers dramatique ou un fait de société ? Faut-il durcir la loi ou pourquoi pas instaurer un couvre-feu partout, on en parle dans un tout petit instant. À tout de suite.
RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jour J.
C'est un groupe qui fait partie de la vie des Français, qui fait partie de notre vie et cela depuis 40 ans. Indochine et son leader Nicolas Sirkis traversent ces époques, arrivent à réunir plusieurs générations dans leurs concerts. On les a dit à plusieurs reprises ringards, démodés et pourtant ils ont toujours su se réinventer. Ce soir, Jour J vous dit tout sur Indochine et c'est à 20h sur RTL.
Carrefour.
Quand vous me dites
la TVA remboursée sur les téléviseurs ?
Eh oui, sur tous les téléviseurs Samsung d'une valeur de 699 € ou plus, le montant de la TVA est remboursé sur votre carte Carrefour, soit 16,66% environ du prix TTC. Et c'est jusqu'au 29 avril dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Tic-tac, 4 jours exceptionnels vous attendent chez Ixina. Durant ces portes ouvertes, Ixina vous offre non pas 150, mais 200 euros par tranche de 1000 euros sur votre cuisine équipée. Pour en profiter, rendez-vous en magasin avant le 28 avril. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions sur Ixina.fr. RTL Matin.
RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin la magistrate Béatrice Brugère.
Béatrice Brugère, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO et auteur d'un livre dont on avait parlé il y a quelques jours ici même avec Yves Injustice, La colère monte, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Trois adolescents de 14 et 15 ans qui lynchent à mort un jeune homme de 22 ans, ça s'est passé à Grande-Synthe. L'un d'entre eux est d'ailleurs toujours en garde à vue ce matin, il y a trois semaines. C'est Chemseddine, 15 ans, qui avait été tué à la sortie de son collège à Viry-Châtillon. Ceux qui ont été mis en examen ont entre 17 et 20 ans. Je pense aussi à Zacharia, 15 ans, tué à Romans-sur-Isère, ou encore Samara, très violemment agressée à Montpellier par des jeunes de son âge. On a l'impression, Béatrice Brugère, qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans un nouveau drame. Est-ce que nos ados sont vraiment plus violents qu'avant ?
Oui, merci. Alors, en effet, la série que vous venez d'évoquer pourrait laisser penser qu'il y a une violence extrême qui est en train de monter. La problématique pour nous de pouvoir répondre à votre question de façon précise, c'est que nous n'avons pas une cartographie ni des statistiques extrêmement fiables. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport que je vous invite à lire de la commission des lois qui a été fait en septembre 2022, qui est assez clair sur le sujet, qui était sur la délinquance des mineurs et qui dit qu'aujourd'hui, en l'état des chiffres et des statistiques que nous n'avons pas de statistiques fiables sur l'augmentation de la délinquance. Mais ce que l'on sait et ce que l'on voit, ça c'est intéressant, c'est que si les chiffres ne disent pas tout, ou en tout cas ne disent pas exactement ce que cette augmentation de la violence, on s'aperçoit quand même que là où il y avait beaucoup d'atteintes aux biens, aujourd'hui il y a beaucoup d'atteintes aux personnes, et notamment avec des armes, et de plus en plus jeunes. Et l'école...
Donc c'est une nouvelle forme de violence, oui, c'est pour ça différente que, en fait, et plus jeune.
Les chiffres ne disent pas tout, ne disent pas exactement ce qui se passe, parce que si on les regarde, même si on met des guillemets, ils ne sont pas tout à fait fiables, en tout cas, on ne voit pas une explosion sur les chiffres, si vous voulez, de la délinquance. En revanche, ce que l'on voit, si on va de façon plus fine sur une étude statistique, c'est que cette violence... elle est beaucoup plus violente sur les atteintes aux personnes et surtout elle est de plus en plus jeune. Et les faits que vous avez cités montrent aussi quelque chose d'important, c'est une gravité dans cette violence, puisque parfois on a même des actes de barbarie. Un des faits que vous avez cité est épouvantablement barbare. C'est la dernière agression du jeune homme de 22 ans.
À Grande-Synthe.
Les images sont innommables, donc je ne vais pas en parler. Mais on voit très bien qu'on a affaire à des profils, ce que dit d'ailleurs le pédopsychiatre Maurice Berger, qui sont quasiment des psychopathes très très jeunes.
Des psychopathes, oui, c'est fort comme
on n'a plus, c'est quoi en fait la psychopathie ? C'est que vous n'avez plus d'empathie. C'est-à-dire que quand vous interviewez ou quand vous auditionnez ces jeunes, en réalité, ils n'ont aucun sentiment de culpabilité. Ils ne voient pas ce qu'est la frontière entre le bien et le mal. Et en vérité, ils sont assez indifférents à la souffrance de la victime. Et c'est ce que l'on peut voir dans les affaires. Donc c'est très choquant et c'est très angoissant. Et si vous mettez ça en parallèle avec les augmentations de violence qui se passent dans l'enceinte scolaire, dans ce rapport, il y a un chiffre qui est très intéressant dont personne ne parle, c'est que pour les élèves de CM1, CM2, donc CM1, CM2, on est sur...
9-10 ans.
9-10 ans, merci. Vous avez quasiment 23% des élèves qui viennent à l'école avec la boule au ventre parce qu'ils ont déclaré qu'ils ont très peur de la violence au sein de l'enceinte scolaire.
Un enfant sur quatre de 9-10 ans a peur d'aller à l'école.
Vous voyez, le rapport, il date de septembre 2022, donc il est déjà un petit peu ancien. On parle de 23%, donc c'est pratiquement un élève sur quatre. Et je vous invite également à aller voir un autre rapport, qui est très intéressant, qui a été fait aussi récemment par la commission des lois sur les atteintes à la laïcité, où vous avez une explosion des violences, y compris sur les professeurs, sur des nouveaux, enjeux, qui sont les enjeux de la laïcité. Donc en fait, ce qui est intéressant dans la violence que vous décrivez, c'est de comprendre, un, qui sont ces mineurs, quelles sont ces nouvelles formes de violence, qui sont aussi à mettre en phase avec la cybercriminalité, le harcèlement, qui sont une explosion. Donc c'est quoi ces chiffres ? Il faut aller derrière, les comprendre, et pour bien analyser les causes de cette montée de la violence.
Et l'autre question, c'est bien sûr que faire face à ça. Le Premier ministre l'a dit la semaine dernière, la délinquance a évolué, la justice doit s'adapter, dit-il. Il y a eu une réforme de la justice des mineurs en 2021, elle n'a rien changé ?
Alors que faire, votre question elle est intéressante parce que c'est presque une question de méthodologie. On entend le Premier ministre qui dit qu'il faut s'attaquer aux racines, aux causes de la violence, faut-il encore la connaître ? Alors, aujourd'hui, on légifère à l'aveugle. Moi, ça fait déjà quelques années que je participe, j'allais dire, aux auditions. Nous n'avons aucune analyse criminologique, aucun renseignement criminel. Nous n'avons pas de chiffres stables. Et en fait, on légifère en permanence sans se soucier de la réalité criminelle. Or, le dernier code de justice des mineurs, il y avait déjà cette criminalité. Mmh. Depuis 2009, souvenez-vous, on a eu aussi des faits médiatiques sur les bandes de jeunes qui faisaient des règlements de compte. On en a parlé, on s'étonnait. Vous savez, les territoires, même des jeunes qui tiraient avec des armes de guerre. Donc, si on continue à légiférer sans s'occuper de la réalité, elle revient en boomerang un jour et elle est traitée de manière médiatique.
Mais l'urgence numéro un, d'après vous, c'est quoi ? On ne punit pas assez, par exemple ?
L'urgence numéro un, c'est de connaître son terreau criminel.
Alors, il faut connaître et avoir les chiffres. Ensuite,
eh bien, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris quoi ? Qu'il y a une surreprésentation dans certains secteurs criminels. Les trafics de stupéfiants, les atteintes aux personnes, le cyberharcèlement, la déscolarisation avec toutes les atteintes et les violences sexuelles. C'est un angle mort également, puisqu'il y a une explosion de violences et de viols sexuels de mineurs sur mineurs.
Et parfois très jeunes mineurs, moins de 13 ans, dans certains cas.
Qui sont 30%.
Qui paraît complètement effarant, hallucinant.
Donc il faut adapter notre législation, c'est-à-dire pour ces mineurs-là, pas tous les mineurs, il faut avoir des outils rapides. C'est ce que dit d'ailleurs le pédopsychiatre Maurice Berger.
Aujourd'hui, c'est 9 mois
minimum.
Minimum. On est passé de 15 à 9 mois d'après le ministère de la Justice pour sanctionner, pour juger en tout cas. Et le problème de la justice des mineurs, c'est qu'aujourd'hui, elle se rend en deux temps. Un, on dit si le mineur est coupable ou pas. Et deux, on met la sanction. Il y a 6 mois souvent entre les deux.
La justice des mineurs a été faite à contre-temps et à contre-sens.
On s'est trompé depuis des années en fait.
On a rallongé et on n'a pas pris en compte cette criminalité extrêmement violente sur laquelle, et Gabriel Attal a raison, il faut ouvrir le débat sur des comparutions immédiates sur des faits très graves pour les sanctionner très vite.
Donc des comparutions immédiates, même dès 16 ans avant.
Oui, sur des faits très graves et sur des mineurs qui sont déjà très délinquants, oui. Et on a réduit les possibilités de détention, je pense que c'est une erreur.
Ça veut dire qu'il faut envoyer des mineurs en prison ?
Il faut, quand c'est nécessaire, envoyer des mineurs, mais il faut aussi...
À partir de quel âge, Béatrice Brugère ?
Alors, en fait, vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est que la criminalité, elle est de plus en plus jeune. Donc aujourd'hui, avant 16 ans, c'est très très difficile de mettre un mineur en détention, et c'est normal. Alors, ce sont des détentions spéciales.
Aménagées dans des centres.
Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que un mineur sur deux fait l'objet déjà d'une assistance éducative. Donc, si vous n'avez pas une vision macro, en fait, aussi de toute l'assistance éducative des mineurs, qui est aussi en grande difficulté parce qu'on manque de moyens, que les délais de prise en charge de la protection judiciaire et des départements sont extrêmement lents parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez d'éducateurs. Il faut absolument faire un plan massif de réinvestissement sur la justice des mineurs, tant en assistance éducative qu'au pénal, avec des nouveaux outils pour aller plus vite, pour être plus sévère. Mais également, il faut voir que du côté de l'éducation nationale, nous avons une énorme problématique parce que les mineurs qui sont délinquants, c'est surtout des mineurs qui sont déscolarisés ou qui traînent la nuit, puisque j'ai entendu dire aussi qu'on avait aussi des mineurs très très jeunes qui traînaient la nuit.
Mais le couvre-feu partout, par exemple, vous y êtes favorable ?
Tout est bon. Tout est bon. Un plan massif, en réalité, pour reprendre en main cette délinquance et ces mineurs qui sont aussi en danger et qui parfois d'ailleurs tombent dans la délinquance et on n'est pas au rendez-vous.
Mais vous nous dites il faut aller plus vite, frapper plus fort. On nous dit régulièrement que les magistrats, et je pense notamment aux juges des enfants, qui sont débordés. Ils ont les moyens aujourd'hui d'aller plus vite ?
Non.
Mais c'est qu'un problème de moyens ou c'est un problème de logique ?
C'est les deux,
de philosophie.
C'est les deux. En réalité, il y a un problème de moyens et il y a un problème de philosophie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir de l'idéologie. Il faut regarder la réalité criminelle telle qu'elle. Il ne faut pas faire des généralités excessives parce que, encore une fois, c'est une petite minorité de délinquants. Donc, il faut faire comme ce que font les anglo-saxons, de la criminologie. pédagogie, connaître son bassin de délinquance, mais également il faut ne pas oublier toute l'assistance éducative qui aujourd'hui est effondrée.
Le principal syndicat des éducateurs, vous parliez des éducateurs à l'instant, dénonce une course à l'échalote avec l'extrême droite. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Justement, en fait, il faut avoir cette vision globale parce qu'en fait, vous ne pouvez pas penser la délinquance des mineurs sans penser l'effondrement de l'éducation nationale, le manque de moyens pour la prise en charge éducative qui est liée et toutes les dérives sur la violence, l'hypersexualisation, la pornographie, les réseaux, etc. Donc, il ne faut pas avoir une vision segmentée, il faut avoir une vision globale. Sauf que
donc, pour l'instant, on ne prend pas la bonne route.
Si, parce que les annonces de Gabriel Attal sont plutôt intéressantes, mais elles ne sont pas suffisantes.
Merci beaucoup, Béatrice Brugère. Et je rappelle votre livre « Justice, la colère monte » publié aux éditions de l'Observatoire.
Vous restez avec nous, Béatrice Brugère. Vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. On va se détendre, ça va nous faire du bien.
Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez grand frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Il y a une Opel pour chaque... Chaque et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
7h54, Philippe, notre invité, la magistrate Béatrice Brugère, venue nous parler de la violence des mineurs, est donc restée pour votre chronique.
Très belle chanson, en hommage à Nicordi. Saleté de vodka frelatée. Bonjour Béatrice. Béatrice Brugère, vous avez les mêmes initiales que Brigitte Bardot. Brigitte d'ailleurs qui déclarait il y a quelques jours sur la délinquance des adolescents. C'est les Noirs et les Arabes, votez Bardella. Alors, elle est formidable sur les animaux, Brigitte. Pour ce qui est des humains, pour faire un peu le tri dans les idées. Béatrice, vous étiez lundi sur Europe 1. On fait tous des erreurs.
Ah oui. Voilà.
Pour parler du même sujet, la délinquance des mineurs. Alors, vous l'aurez remarqué, à RTL, on est un peu moins radical que nos collègues de la rue François 1er, puisqu'on n'est pas pour la peine de mort dès 5 ans non. Pour vol de dragibus. Mais on n'est pas non plus sur la ligne de France Inter qui, pour canaliser les mineurs violents, propose des balades en forêt et de la peinture sur soie. Tiens, j'ouvre une parenthèse, je vous vois fatigués tous. C'est notre tout premier jour sans Nicolas de Taverneau. Et bien, je ne vois aucune différence. Finalement, il était peut-être pas si indispensable que ça, le soi-disant virtuose des médias. Je rappelle que Giorgio Armani, il a 89 ans, il est toujours au charbon. Voilà, incompétent et feignant, en plus, le Taverneau.
Bon, Philippe, êtes-vous compétent par ailleurs pour parler de l'enfance, de l'éducation et de la violence des mineurs?
Alors, il y a beaucoup de mépris et de suspicion dans votre question.
Oui.
Je vous rappelle que j'ai deux chats qui ont respectivement 3 ans et 3 ans, et qu'ils n'ont jamais fait une garde à vue. Donc voilà, ce que je sais, bien sûr, sur l'éducation des plus jeunes, au respect des autres et de la population, c'est l'affaire de tous. Voilà, quand on a un enfant qui court dans un couloir de TGV,
oui.
Bah, c'est très simple, vous tendez la jambe, c'est un geste civique, la première jambe coupe l'enfant dans son élan, et le genou du second passager situé deux rangs plus loin, qui va frapper le front de l'enfant HPI, va lui permettre d'entamer une sieste récupératrice pour lui et surtout pour tout le wagon.
Bravo. Pour lutter contre la violence des mineurs, Gabriel Attal était à Nice pour inaugurer donc un internat pour les élèves en décrochage et les primo-délinquants. Voilà.
Ah, Joe Dassin.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Tu nous manques. Où tu, petit pain au chocolat? Fausse route. Oui. Comme Coluche, finalement. Alors, notre Gabriel Attal propose le retour de l'internat, le retour de la blouse, le retour de l'apprentissage de la Marseillaise. Notre Gabriel Attal, c'est le cerveau d'un grand-père dans le corps d'un petit-fils.
Petit-fils, oui.
À mon avis, dans sa chambre, il y a des posters de Daniel Darieux, Lucien Boyer et Georgette Plana. Gabriel, il était arrivé au gouvernement, c'était un petit chiot Golden Retriever, il était tout mignon. Et aujourd'hui, c'est le sergent Hartman dans Full Metal Jacket.
Espèce de sac à foutre, tu vas rôter du sang. Moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou.
Oui, c'est bon. On a compris, Gabriel. Merci, Gabriel. Bref, les élèves perturbateurs vont passer 2 semaines enfermés dans cet internat, puis rentrer chez eux. C'est un peu comme la Starac, sauf qu'à la fin, t'as pas de carrière artistique.
Non.
Donc c'est exactement comme la Starac, finalement. Alors, vous savez, pour tout ce qui est de l'enfance, eh bien, je fais bien sûr souvent référence à Boris Cyrulnik, qui a dit « Les jeunes ont perdu le sens de qu'est-ce qu'on veut, à quoi on rêve, ils sont prisonniers de l'immédiat, et c'est très juste. » Et Boris a dit également à son épouse hier, « Florence, cette histoire de Kenji, là, c'est un peu chelou. À mon avis, sa femme a retrouvé des capotes planquées dans la guitare, et elle a voulu le fumer. » Eh bien, merci Boris, c'est une piste intéressante qu'on étudiera.
Les maires de Béziers et de Nice, Robert Ménard et Christian Estrosi, veulent eux instaurer un couvre-feu pour les mineurs.
Oui, alors ça n'a pas changé grand-chose pour les jeunes, de toute façon, parce qu'il n'y a rien à foutre à Béziers et à Nice après 18h30. À cause de ce couvre-feu, quand même, il y aura un petit ajustement à faire pour les pédophiles niçois et bitérois qui vont dorénavant devoir faire leurs emplettes avant le coucher du soleil, mais peut-être 2 jours, c'est plus facile d'identifier l'enfant aussi. Alors, on a tous écouté Robert Ménard cette semaine. Écoutez, Robert, il était clair, Robert, il a dit, attends, Yves, à Mandy, là, bonjour. Ça va, Béatrice, elle est formidable, elle fait un super travail, Béatrice. Bon, voilà, on va pas se raconter d'histoire, on va pas se raconter la messe. À Béziers, la situation est putain là, voilà. T'as des hordes de minots, 12-13 ans, qui se battent, ils font quoi? Ils font des conneries, voilà. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics font rien, ils font... Bon, quoi, je suis maire depuis 2014. Oui, d'accord, mais bon, je peux pas gueuler sur BFM et CNews et faire la sécurité dans les rues de Béziers. C'est pas mon job. De toute façon, il y a tous les gauchistes du Conseil d'État qui vont me casser mon arrêté. Mais voilà, au moins, on aura vu ma gueule sur BFM. Voilà.
Vous êtes content?
C'est vrai.
On aurait dit
Bon, ça va sur Robert Ménard. Je reviens après.
C'est tellement bien.
Oui,
c'est
quand même.
Et même physiquement, pour ceux qui nous regardent,
je sais pas, c'est un compliment de.
Bon, l'œil de Philippe Cavrivière qu'on va retrouver bien entendu à 8h.